Nous sommes dans le quartier de Capitol Hill. Le congrès est juste derrière nous et on est devant un magasin qui s'appelle Predicted. C'est le bookmaker de la capitale fédérale américaine où on vient parier essentiellement sur la politique.
So the Democratic nominee right now over here, it's Elizabeth Warren.
Alors il y a une vitrine avec 6 écrans.
It's got 28%. You can see there 28 cents.
Il y a le tableau des démocrates. Alors qui va gagner la course à l'investiture? 28% parie sur Elizabeth Warren. C'est elle qui est en tête, mais 28% c'est pas beaucoup. Elle est suivie de Joe Biden à 23% qui est en baisse.
Comment on dit en québécois bookmaker?
Maison de Paris, manière de perdre de l'argent ou d'en gagner, je sais pas.
Who do you think's going to win? Do you know?
Démocrate, faites vos jeux, c'est le deuxième épisode de Washington DC. Bonjour.
They want to destroy you and they want to destroy our country.
Our politics has become so mean, so petty, so negative, so partisan, so angry, and so unproductive.
Washington, D.C.
On va changer le pays d'Amérique avec quelqu'un qui est plus humain.
Et donc, pour ce deuxième numéro de Washington DC, le podcast, le balado des correspondants des radios publiques francophones, on a posé nos micros chez ce bookmaker situé au cœur de la capitale fédérale. On est dans le quartier de Capitol Hill, juste derrière le Congrès. On le voit d'ailleurs par la fenêtre. Et vous l'avez compris, la particularité ici, c'est qu'on vient parier en priorité sur la politique. Alors c'est pas très surprenant dans cette ville qui vit pour et par la politique. Et donc vous pouvez venir ici chez Predicted miser quelques dollars ou quelques dizaines de dollars par exemple sur le nom de celle ou celui qui affrontera Donald Trump l'an prochain. Ça tombe bien, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. On a appelé cet épisode Démocrate, faites vos jeux. Et autour de moi, il y a
Anne Corpet, RFI.
Sonia Dridi, RTBF.
Raphaël Grand, de la Radio-Télévision Suisse.
Raphaël Bouvier-Auclair, de Radio-Canada.
Et Grégory Philips, de France Info. Alors pour commencer, j'ai envie à tous de vous poser une question. Est-ce que c'est Joe Biden qui va remporter l'investiture? Est-ce qu'à l'heure où on se parle, jeudi 14 novembre, 14h à Washington, Biden est encore le favori? Qui se lance, Raphaël?
On voyait en bas qui vaut peut-être quelques cents de moins qu'Elizabeth Warren, mais quand même, il demeure le candidat le plus connu, ancien vice-président. Quand on regarde la moyenne des sondages, il est toujours en tête, mais il y a quand même des coups de sonde individuels qu'il met derrière certains candidats, notamment Elizabeth Warren, et il est aussi à la traîne dans certains états clés, ce qui nuit quand même à son message clé. Joe Biden se présente comme étant le candidat qui a le plus de chances d'être élu, de battre Donald Trump.
I'll beat him like a drum.
De le battre, dit-il, comme un tambour.
En tout cas, on sent que Joe Biden pour Trump, c'est un peu, pour l'instant en tout cas, l'adversaire désigné, non?
Ah oui, c'est sa cible unique, quasiment. Et d'ailleurs, c'est bien parce qu'il cherchait des informations compromettantes sur Joe Biden que le président est maintenant empêtré dans une procédure de destitution. Mais ça, on en a déjà parlé dans le premier podcast.
Et je vous invite à télécharger.
Et je vous renvoie à l'écoute de ce premier podcast Washington DC. Trump qui a déjà trouvé un surnom à Biden, comme il le fait avec ses ennemis politiques, c'est Sleepy Joe, comment vous traduisez?
Joe l'endormi.
Joe l'endormi.
Pas mieux, ouais.
Ouais, ou Joe l'assoupi. Enfin, c'est quelque chose entre les deux. En tout cas, quand on va dans les meetings de Biden, Raphaël, est-ce qu'on sent un enthousiasme ou alors c'est un peu le candidat de la, comment dire, de la raison?
Je dirais qu'il y a plutôt de la nostalgie quand on va voir les meetings de Biden.
La nostalgie des années Obama?
Voilà, c'est ça. Par exemple, j'étais au lancement de sa campagne en Pennsylvanie, à Pittsburgh. Ce sont les terres de Joe Biden et des supporters portaient des t-shirts, en fait. 2008, Obama, Biden. Ça vous donne un peu l'ambiance nostalgique. Voilà. J'ai l'impression que c'est sa faiblesse, en fait, à Biden, cette nostalgie des années Obama.
Par contre, ce qui m'a frappé en allant dans ces meetings, c'est de voir qu'il y a beaucoup d'Afro-Américains et beaucoup de blue-collar, donc d'ouvriers, et ce sont des électorats clés pour une élection présidentielle américaine. Donc voilà, malgré le peu d'enthousiasme et la chute dans les sondages, il a quand même des électorats clés.
Ce public est là quand même, en voilà. Tout cas au début de cette campagne. Toi, tu peux nous parler de quelqu'un qui conseille déjà Joe Biden, il s'appelle Anthony Blinken, présente-le-nous en quelques secondes.
Oui, Tony Blinken, c'est un des Obama Boys, comme on dit, il a été dans l'administration l'administration Obama. Il a notamment été secrétaire d'État adjoint. Il connaît aussi depuis très longtemps Joe Biden. Et c'est pour ça aussi que c'est important d'aller dans ces meetings de campagne, c'est essayer de voir qui est la garde rapprochée, d'entrer en contact avec les conseillers. Et Tony Blinken, bah, on a de la chance, nous les francophones, parce qu'il est francophone et francophile.
Au début de cette campagne.
Campagne, c'est surtout aux États-Unis, c'est une route, un parcours très très long. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Et pour n'importe quel candidat qui a du succès, ma question c'est de savoir comment est-ce que vous gérez les bas. Est-ce que vous avez la capacité, la résilience de pouvoir garder le parcours, rester en route et ça, on ne sait pas.
Et Sonia, tu es en mesure de nous dire que Anthony Blinken est pour l'instant le conseiller politique étrangère de Joe Biden. Donc il aura sans doute un rôle important à jouer dans les prochains mois et peut-être si Biden arrive à la Maison Blanche. Cette période de la campagne électorale des démocrates, elle est vraiment passionnante à observer. Pourquoi ? Parce qu'à ce stade, on peut encore croiser les candidats, Raphaël.
Oui, c'est la partie, je trouve, fascinante dans ces élections présidentielles. C'est le début des campagnes, donc les primaires, quand les candidats vont dans ces états clés, l'Iowa, le New Hampshire. Et ils vont vraiment, au premier sens du terme, ils vont labourer le terrain, ils vont à la rencontre de leurs électeurs. Et on les croise, les candidats, hein, nous, journalistes étrangers. On les croise, Cory Booker, par exemple, le sénateur de New Jersey, je l'ai croisé dans un avion. On les croise des fois à l'aéroport. Ça m'est arrivé de finir dans une cuisine d'un habitant de l'Iowa à boire des bières en écoutant un candidat debout sur une chaise. Enfin, c'est ce genre d'expériences qui sont assez étonnantes. Et puis même les sénateurs, donc les candidats qu'on a de la peine à croiser à Washington DC, on les croise en campagne dans ces petits états.
Et de l'Iowa où tu croises ces candidats, tu nous ramènes un scoop. Il y a une candidate à l'investiture démocrate qui est suisse.
Voilà, demi-suissesse. Vous la connaissez ? C'est une sénatrice.
Non.
Voilà, heureux de vous apprendre un peu la politique américaine, chers amis. Elle s'appelle Amy Klobuchar, sénatrice du Minnesota. Elle est donc ses grands-parents du côté de sa maman sont suisses. Elle a même des racines dans une famille de fromagers suisses. Et elle parle suisse allemand.
I can say grüezi.
Alors j'ai pas bien compris. Elle dit quoi? Grüezi.
Grüezi. Il y a des grizzlies dans le Minnesota.
Elle dit grüezi. Ça veut dire bonjour en suisse allemand. Donc voilà, moi j'attends le jour où le président ou la présidente américaine sur le perron de la Maison Blanche va accueillir la foule avec un bon, grand et haut grüezi.
Et puis juste une parenthèse, faut quand même rappeler que parmi ces 17 ou 18 candidats démocrates encore en course, il y en a un qui parle très bien français, c'est Pete Buttigieg, le maire de South Bend, Indiana, et je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler sans doute dans un prochain podcast.
Il parle 7 langues. Hein.
Alors il y en a pas mal, mais il n'y a pas le suisse allemand.
Cette période de la campagne démocrate, c'est aussi l'occasion de faire des selfies avec les candidats.
Oui, c'est devenu une sorte de routine électorale. Alors moi, j'étais par exemple avec Cory Booker, vous savez, cet afro-américain.
Look here, ready, one, two, three.
Alors tout le monde faisait la queue pour avoir son selfie. La particularité là, c'est que c'est l'équipe de campagne qui prenait les photos, qui prenait en même temps les emails ou les numéros de téléphone des gens. Et ça leur permet après d'envoyer non seulement le cliché, mais une imposante nourriture électorale.
Oui, puis ça permet aussi effectivement de toucher quasiment le candidat. La championne dans cet exercice de séduction massive...
C'est Elizabeth Warren, la championne des selfies. Le selfie qui est devenu en quelque sorte l'arme de séduction massive dans ces campagnes des primaires démocrates. Et à chaque meeting politique, il y a ces fils de plus en plus longs qui se forment derrière les candidats. Je me demande si on pourrait pas un jour introduire l'index selfie pour avoir une idée.
Mais on y est quasiment parce que Warren se vante...
Ouais,
et Warren se vante que ses séances durent parfois 4 ou 5 heures et elle prend le temps d'ailleurs de faire ça avec ses supporters.
Mais ça exige de la patience. J'étais dans un rassemblement il y a quelques semaines, il y avait des centaines de personnes. Imaginez attendre et parler et serrer la main de tout le monde après un rassemblement, un discours qui a duré 2 heures quand même, il faut le faire.
Et justement, on plonge dans la file d'attente.
Buttigieg, Andrew Yang, Kamala Harris.
Et on entend cette dame qui liste le nombre de candidats qu'elle a déjà rencontrés. Donc Pete Buttigieg, Andrew Yang, elle en avait déjà rencontré 5, je crois. Et pour les gens dans ces états, là c'était dans le New Hampshire, un petit état où les gens vont dès le début voter pour les candidats, c'est vraiment important de serrer la main, de rencontrer, de faire une photo avec un futur président américain.
Alors, on est toujours chez Predictit, le bookmaker politique. Et si vous passez par Washington un jour, vous pourrez venir parier sur tel ou tel candidat, notamment à l'investiture démocrate ou même sur le résultat de la présidentielle de 2020. On voyait ça en vitrine tout à l'heure. Il y en a deux qui ont un peu les faveurs des parieurs. Ce sont Elizabeth Warren et Bernie Sanders. Ils incarnent chacun à leur manière la gauche du Parti démocrate. Bon, les paris, c'est bien, mais que disent les sondages, Anne ?
Bon, globalement, c'est toujours Joe Biden qui est en tête, ouais, mais dans un mouchoir de poche avec Elizabeth Warren, Bernie Sanders en troisième position, il a un peu baissé. Et ce qui est notable, c'est la montée de Pete Buttigieg, ce jeune maire d'une petite ville de l'Indiana, qui fait une campagne tout à fait étonnante et qui rabasse aussi beaucoup d'argent.
Et qui est premier en ce moment dans les sondages dans l'Iowa. Et ça, il y a quelques semaines, personne ne l'aurait vu venir. Donc, c'est vraiment intéressant à suivre. Et c'est dans l'Iowa que commencent les primaires démocrates.
Évidemment, on regarde essentiellement les sondages locaux pour l'instant qui ont, même si on est encore très loin de l'élection, peut-être un peu plus d'importance que les sondages nationaux. Tiens, dans les enquêtes d'opinion en 2016, on avait noté que les jeunes s'étaient vraiment très peu déplacés pour la présidentielle, même pour Hillary Clinton. Pour cette élection qui approche, est-ce qu'on sent que l'électorat des millennials, comme on les appelle, dans un mauvais franglais, va être mobilisé?
Oui, parce que par rapport à la campagne de 2016, où quand on parlait aux jeunes, on le voyait, il y avait très peu d'enthousiasme pour Hillary Clinton. Là, il y a beaucoup d'enthousiasme pour deux candidats en particulier, Elizabeth Warren et Bernie Sanders. Les jeunes, ils ne veulent pas entendre parler de candidats modérés, que ce soit Pete Buttigieg ou Joe Biden.
I'm hesitating between Bernie Sanders and Elizabeth Warren.
Et quand on leur parle, il y a vraiment que deux noms qui sortent de leur bouche, c'est Warren ou Sanders.
Like climate change and student loans and immigration.
Donc là, j'ai rencontré notamment cette jeune femme de 24 ans qui me dit que elle aime ses candidats parce que ils lui parlent des sujets qui la concernent, que ce soit le changement climatique, la dette étudiante ou l'immigration. Elle m'a aussi dit qu'elle serait extrêmement déçue si c'était Joe Biden le nominé, par exemple. Et comme beaucoup de jeunes, eh bien, elle n'est pas sûre d'aller voter si ce n'est pas Warren ou Sanders.
Juste un chiffre, les 18-34 ans, c'est en gros un tiers de l'électorat américain, mais en 2016, ils étaient que 19% des votants. Donc c'est vraiment des voix à aller accrocher avec les dents, si je puis dire.
Oui, dans ce duel qui oppose Sanders à Warren, Sanders a fait un joli coup en ralliant Alexandria Ocasio-Cortez.
D'un mot, rappelons qui c'est.
AOC, cette élue charismatique, la plus jeune élue du Congrès, élue charismatique de New York.
Ouais, Alexandria Ocasio-Cortez, qui est d'ailleurs trop jeune hein, pour être élue présidente. Elle a 30 ans et la Constitution dit qu'il faut avoir 35 ans pour briguer la place de président.
Ces candidats de l'aile gauche du Parti démocrate, Elizabeth Warren notamment, parlent beaucoup santé, notamment couverture santé. On sait que c'est un sujet extrêmement important ici pour les Américains. Raphaël, quel regard le Canadien que tu es porte là-dessus?
C'est intéressant parce que quand on parle de ce sujet qui divise, il faut dire, les candidats progressistes et modérés, eh bien, dans les débats, il y a des références au Canada, au système de santé canadien. Quand on parle d'assurance santé, ça vient notamment de Bernie Sanders, le sénateur du Vermont. Il faut dire que M. Sanders a eu des décennies pour regarder tout juste au nord de la frontière. Il habite au Vermont, pas très loin du Canada. Notre système est loin d'être parfait, vous demanderez à des gens au Canada, n'empêche, il attire l'envie de certains de ses candidats à l'investiture.
Bon, à l'est du Vermont, il y a l'Europe aussi. Hein.
Oui, un peu plus loin quand même.
Ils en parlent, aussi des pays développés comme la France, qui a une couverture maladie universelle.
Hein. Et puis Raphaël, on reste avec toi, au-delà des personnalités qui émergent ou non pendant cette campagne, il y a aussi une institution qui est le Parti démocrate et qui est dirigée par Tom Perez, un mot, qui c'est?
Un ancien de l'administration Obama, qui est maintenant donc à la tête du parti, qui tente de tenir cette formation-là entre les factions plus progressistes, plus modérées. Je l'ai rencontré dans une table ronde en banlieue de Houston où il organisait un événement pour montrer que les démocrates pouvaient gagner aussi dans des territoires un peu plus centristes. Et je lui ai demandé, est-ce qu'avec des propositions progressistes comme ce qu'offre par exemple Sanders ou Warren, il n'y a pas un risque de repousser certains de ses électeurs plus modérés?
What we've seen across the country is the Republican Party is the party of extremes. Democrats want to make sure that everybody has access to quality, affordable healthcare.
Il m'a dit qu'au fond, selon lui, c'est le Parti républicain qui est un parti d'extrémistes et que les démocrates, finalement, ont plusieurs objectifs communs. Il est resté général, évidemment, mais bon, plus d'accès aux soins de santé, de meilleures législations pour contrôler les armes à feu, de quoi plaire, disait-il, aux gens, par exemple, du Texas.
Et puis, il y a quelque chose de central dans une élection américaine, c'est assez connu, mais c'est quand même très important, c'est l'argent.
Ah bah, c'est la préoccupation centrale de tous les candidats, et c'est même une question de vie ou de mort hein, pour les petits candidats démocrates. Par exemple, moi j'ai vu Cory Booker à un petit déjeuner de collègues de fonds, à un moment où il disait que s'il ne ramassait pas $1,700,000 en 10 jours, il quittait la course. Alors c'est évidemment un petit déjeuner payant. Mais à ma grande surprise, la plupart des participants n'avaient pas payé. Ce sont des entreprises qui avaient acheté toutes les places, des sponsors en fait, et qui avaient ensuite distribué les places à leurs meilleurs clients ou alors à des élus locaux qui voulaient séduire.
Et si les collectes de fonds sont pas assez élevées, on lâche la course.
Il y a l'effet guillotine du billet vert, tout simplement. Moi, je me rappelle de vous rappeler sans doute tous de Beto O'Rourke, cet élu du Texan qui était la rockstar. Hein. Il a fait la une de Vanity Fair quand il a lancé sa campagne. Manque de fonds, manque d'argent, Beto a disparu. C'est le même problème pour Kamala Harris en ce moment. La sénatrice de Californie, qui passe plus de temps dans des collectes de fonds que sur le terrain, à serrer la main et à prendre des selfies avec les électeurs, c'est vraiment le nerf de la guerre.
En 10 secondes, c'est qui le champion démocrate des levées de fonds ?
C'est Bernie Sanders, il vient de reprendre sa première place que Warren lui avait provisoirement ravie. Et les deux d'ailleurs ont une particularité, c'est qu'ils ne reposent que sur les dons des petits donateurs.
Mais alors face aux démocrates, il y a quand même Trump et le comité national républicain qui ont déjà récolté $300 millions. En fait, c'est un record dans l'histoire pour un président en exercice. Et juste pour avoir une petite indication, Donald Trump a deux fois plus d'argent accessible pour sa campagne que l'avait Barack Obama à la même époque quand il se présentait pour son second mandat.
Et puisqu'on parle gros sous, il y en a un qui risque de peser pas mal dans les prochaines semaines ou les prochains mois s'il décide de se lancer dans la campagne électorale, et c'est pas sûr, c'est Michael Bloomberg, l'ancien maire de New York, il hésite à y aller.
C'est ça, alors on le saura sans doute ces prochains jours, peut-être ces prochaines heures, ces prochaines semaines. Michael Bloomberg, pour être totalement transparent, Grégory, tu nous as demandé de faire quelques recherches sur qui était ce monsieur, mis à part être l'ancien maire de New York. Je sais pas, est-ce que vous avez des infos?
Je vous ai demandé trois infos qui peuvent m'étonner sur Bloomberg.
Bon, moi j'en ai une. Bloomberg, il a la Eagle Scout.
C'est le plus haut grade chez les Boy Scouts.
Exactement. Et alors moi j'ai des amis qui mettent ça sur leur CV, apparemment c'est important. Et il l'a, Bloomberg.
Bon, et c'est la 9e fortune du monde, mais est-ce que vous savez qu'il a été valet de parking pour financer ses études ?
Comme beaucoup d'Américains. Alors moi, c'est un peu plus sérieux comme info. C'est la gauche qui critique beaucoup dans certains cercles parce que, en fait, quand il était maire de New York, il a soutenu la politique du stop and frisk, le contrôle et la fouille. Et cette politique a affecté de manière disproportionnée les Latinos et les Noirs.
Raphaël ?
Faut savoir que, candidat ou pas, Michael Bloomberg est important au sein de la politique démocrate. Pendant la campagne de novembre pour les élections législatives en Virginie, il a investi par le biais de groupes pour le contrôle des armes des centaines de milliers, voire des millions de dollars. Résultat, les démocrates ont remporté les deux chambres de la législature en Virginie. Ça s'était pas vu depuis les années 90.
Décidément, on a parlé gros sous aujourd'hui. Démocrates, faites vos jeux. C'était le deuxième épisode de ce balado, de ce podcast des radios francophones publiques ici à Washington. On était installés chez Predictit, le bookmaker politique de la capitale. D'ailleurs, les amis, si vous deviez miser, allez, $10 sur un ou une candidate qui remportera l'investiture démocrate, qui se mouille.
Bon, si on veut gagner de l'argent, il faut miser sur un petit. Donc, moi, je vote pour Pete Buttigieg qui parle français.
Moi, pour Elizabeth Warren.
Je garde mon argent.
Je prends pas de risque. Non, je suis pas joueur, surtout en politique américaine.
On va pas tomber dans les clichés, mais le Suisse reste prudent. Allez, on se retrouve dans 15
facile.
Jours, peut-être plus tôt si nécessaire. Et je sais pas encore où on sera, peut-être pas loin d'ici au Capitole ou dans un autre lieu emblématique de la capitale américaine pour vous faire vivre cette campagne 2020 à Washington et un peu partout aux États-Unis. À très vite.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Look here, ready, 1, 2, 3.
Washington DC avec
Anne Corpet, RFI.
Raphaël Grand, Radio-Télévision Suisse.
Sonia Dridi, RTBF.
Raphaël Bouvier-Auclair, Radio-Canada.
Grégory Phillips, France Info.
Réalisé par
Sandro Lichy.